Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient dans 30 minutes. Nous commenterons ensemble les affiches des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La première partie de cette CAN 2019 est désormais terminée. Depuis hier soir, on connaît les 16 équipes qui vont poursuivre la compétition. Au programme, 8 matchs qui se dérouleront de vendredi à lundi avec évidemment quelques rencontres bien alléchantes. Je pense notamment à Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Ouganda, Ghana, Tunisie et surtout Nigeria-Cameroun, incontestablement le match choc des huitièmes. On suivra également le Bénin qui, sans avoir gagné le moindre match, fêtera sa première qualification pour la phase finale en se frottant aux Marocains. Et Madagascar, la surprise du premier tour, sera opposée à la RDC. Vos réactions, vos pronostics, vos analyses évidemment nous intéressent. Continuez à nous appeler 33 9 693 693 70 et vous continuez à poster vos commentaires sur la page Facebook et sur le compte WhatsApp de l'émission. J'ai un peu l'impression que les supporters congolais se mobilisent davantage, hein, plus que les autres sur le compte WhatsApp. Vous êtes nombreux à nous écrire de Kinshasa, de Goma, de Lubumbashi, beaucoup de Congolais au standard, quelques Guinéens, des Sénégalais, des Maliens, deux, trois Malgaches, quelques Togolais également, même si le Togo n'est pas en course, mais voilà, on vous donnera la parole dans une demi-heure, émission consacrée donc au huitième de finale de la CAN. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction, et on va commencer, tiens, par hasard, avec une question sur la Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour Sylvestre.
Ouais, bonjour Juan, et bonjour à tous les auditeurs.
Merci, vous êtes à Blita, au Togo, et vous avez des questions justement sur les Zébus de Madagascar.
Oui, je disais, on connaît désormais les affiches du huitième de finale de la CAN 2019. Le Madagascar s'est qualifié à ses huitièmes de finale. Quelles sont les raisons ou les atouts qui ont permis cette qualification?
Oui, d'autant que c'est sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations et cette équipe s'est qualifiée pour les huitièmes en terminant premier de son groupe. On va retrouver en Égypte l'un des envoyés spéciaux de RFI. Bonjour Hugo Moissonnier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous suivez l'équipe malgache depuis le début de la compétition. Comment expliquer un tel exploit?
Alors, il faut vraiment revenir au début de l'aventure Nicolas Dupuis, de la saga Nicolas Dupuis, du nom du sélectionneur actuel des Baréas de Madagascar. Il est parti d'une page blanche, ou presque. En clair, il fallait construire une équipe, sélectionner les meilleurs malgaches pour construire une équipe. Ça paraît très simple et ça paraît être du bon sens, sauf que ce n'était pas si simple, en fait, au départ pour lui. Il est arrivé en 2016 dans le giron du football malgache. Et à l'époque, entre incompétence et volonté de favoriser certains joueurs, on ne sélectionnait pas les meilleurs malgaches en équipe nationale. Alors Nicolas Dupuis, il a fait en sorte de mobiliser ou remobiliser les talent de la grande île. Certains s'étaient éloignés de la sélection. Je pense à Abel Anissé, premier buteur de Madagascar en Coupe d'Afrique des Nations. Je pense à Lalaina Bolide, premier buteur face au Nigeria ce dimanche. C'est dire si son travail a été important. Et puis, à ces talents de la grande île, il a fallu ajouter des joueurs qui avaient des origines malgaches, mais qui étaient nés soit en France, soit en métropole, pardon, soit à la Réunion, des binationaux, tout simplement, comme on dit. Le plus célèbre, c'est Jérémy Morel, sauf que Jérémy Morel, il est blessé, il n'a toujours pas joué dans cette CAN. On pense plutôt à Romain Métanir, à Thomas Fontaine, à Jérôme Ombris, les défenseurs, et à Marco Ilema Aritra, le buteur qui a donné la première victoire, qui a offert à Madagascar sa première victoire en Coupe d'Afrique des Nations, c'était face au Burundi. C'est dire si l'histoire a validé les choix et le travail de fond opéré par Nicolas Dupuis.
En tout cas, le rêve se poursuit pour les Malgaches. Ils ont commencé par un match nul de partout face à la Guinée. Ils ont décroché leur première victoire en Coupe d'Afrique des Nations face au Burundi 1-0. Et puis cette victoire incroyable, 2-0 face au Nigeria.
Oui, et là, on en vient à d'autres ingrédients qui font ce succès malgache, une volonté de jouer, de prendre du plaisir, non, sans complexe, quel que soit le contexte et quel que soit l'adversaire. Ils ont livré une partition remarquable face au Nigeria. On ne parle pas du tout d'une victoire, on ne parle pas d'un hold-up, on parle d'une victoire totalement méritée dans le jeu. Cette équipe, elle vit très bien. Alors ça, c'est un poncif, un cliché, ce groupe qui vit bien, sauf que c'est réellement le cas à Madagascar, une très belle ambiance dans cette équipe. Alors que les parcours des joueurs sont différents, il y a des natifs de la Grande Île, il y a des natifs de l'île de la Réunion, il y a des gens qui sont nés en métropole, en France, variété de profils, variété de carrières, certains jouent en Afrique, d'autres en Europe, d'autres en Asie, et pourtant ça prend bien, l'ambiance est excellente, et la détente, la décontraction est palpable, et paradoxalement elle sert à être à la hauteur de l'enjeu, et être à la hauteur de certains adversaires, comme le Nigérien, un très grand nom d'Afrique.
Allez, prochain match des Malgaches, ce sera dimanche, à suivre évidemment en direct sur RFI, 16h temps universel, ce sera face à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Hugo Moissonnier, bon repos, vous pouvez souffler en même temps que les joueurs, puisque pendant 2 jours, tout le monde va pouvoir respirer un tout petit peu, se reposer et reprendre des forces donc pour ces 8e de finale. D'autres questions à la rédaction, 33 9 693 693 70. On va s'intéresser maintenant à la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Bonjour Delvi.
Bonjour Juan, bonjour à tous et un grand bonjour à votre formidable équipe au standard.
Merci de vos encouragements. Quelles sont vos questions Delvi?
Sur RFI, nous avons appris la décision des Nations Unies de réduire ses troupes en RDC. L'ONU estime-t-elle que la situation est suffisamment sous contrôle pour se retirer et quelles conséquences cela peut-elle avoir sur le plan sécuritaire en RDC?
Oui, c'est l'une des conséquences de la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de réduire le budget des opérations de maintien de la paix. Bonjour Sonia Rollet.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, la MONUSCO réduit donc la voilure. Faut quand même rappeler à nos auditeurs que la MONUSCO est la plus coûteuse des missions onusiennes de maintien de la paix, avec plus de 16 000 militaires, plus de 600 observateurs militaires et officiers, près de 400 policiers, 1000 membres d'unités de police constituées. Qui est concerné par la suppression des postes?
Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette décision, en fait, a été prise par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a des contributeurs, en fait, du département des opérations de maintien de la paix. On connaît par exemple les États-Unis. C'est les États-Unis, la Grande-Bretagne qui financent beaucoup les opérations de maintien de la paix. Mais c'est notamment les États-Unis qui ont décidé de réduire leur contribution. Et c'est pour ça que la MONUSCO se retrouve obligée, parce que son budget va être réduit, devait être réduit et en cours de négociation, est obligée donc de réduire en fait la taille de sa mission. Donc là-dessus, il a fallu choisir les endroits où il pouvait réduire. Donc ils ont choisi 8 bases, essentiellement des bases qui se trouvent à l'ouest du pays, on pense dans le centre ou à l'ouest, ou alors en tout cas pas dans la partie est traditionnelle de la mission. Donc il y a Lubumbashi, il y a Kisangani pour les grosses bases, il y a Dungu également, et c'est vrai que ces bases-là sont considérées comme étant des bases qui ne sont pas en zone de conflit. Par exemple, la MONUSCO garde évidemment les Kasaï, va garder également évidemment tout ce qui se trouve au sud Kivu, nord Kivu et Ituri, et donc a décidé de se recentrer dans les centres, dans les endroits où il y a des groupes armés. C'est un peu ça la logique générale. Après, c'est vrai que est-ce qu'il n'y a pas de risque du tout dans des villes comme Kisangani, comme à Lubumbashi ou ailleurs? C'est difficile à dire parce que tout simplement, jusqu'ici, les problèmes étaient plutôt politiques. Donc la mission des Nations Unies au Congo était surtout là pour faire de l'observation quand il y avait des manifestations et autres. Donc là, on sait que le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui perd quand même une vingtaine de postes sur 125, essaye de maintenir justement ces équipes à Kisangani et à Lubumbashi, qui sont quand même deux grosses villes au Congo, pour essayer de continuer à documenter si jamais il y a des violations, et notamment des violations des droits de l'homme à caractère politique.
Mais ça veut dire quoi, Sonia Rollet? Que la présence militaire sera impactée justement par la réduction des budgets? Il y aura sur le terrain moins de militaires à l'avenir?
Alors là, c'est surtout des postes, on sait qu'il y a beaucoup de postes civils plutôt qui sont touchés. Mais et puis faut savoir que ça a un impact un peu sur toute la mission des Nations Unies en fait. On parle de ces 8 bases qui sont fermées, mais c'est vrai que ils sont allés chercher les postes à couper un peu partout. Donc il y a aussi des postes qui sont coupés par exemple dans une ville comme Bukavu. Il y a des postes là-bas qui sont coupés et puis on va chercher des gens qui étaient ailleurs dans la mission et on va les mettre là si on en a besoin ou alors vraiment c'est des postes des capacités qui vont être réduites dans beaucoup des bases du Congo. Donc c'est moins une question en fait d'intervention militaire face à des groupes armés, c'est vrai, mais c'est une question aussi de capacité à pouvoir faire ces opérations. Et puis surtout, on ne sait pas exactement encore quelles vont être l'ampleur de ces coupures, parce que ça peut être encore plus à l'avenir. Donc c'est peut-être pas fini en fait cette hémorragie, mais la logique, il faut savoir qu'elle est plus comptable dans ce cas-là que d'une logique réellement d'opération ou est-ce que ce sont des zones sécurisées, voilà. Et ça correspond aussi à une demande des autorités congolaises, d'ailleurs que ça soit les autorités congolaises, enfin le président Kabila ou même le président Tshisekedi, puisque les deux ont demandé successivement à la mission de vraiment se concentrer sur ces groupes armés dans l'est du Congo notamment.
Oui, en tout cas sur RFI, samedi dernier, Félix Tshisekedi rappelait que pour le moment, le pays avait encore besoin de la MONUSCO, surtout dans les zones à problème. Dans l'est, a-t-il dit, la MONUSCO est un partenaire essentiel. Merci beaucoup Sonia Rollet d'avoir été avec nous. On souhaite une bonne journée à Delvi qui nous appelait de Pointe-Noire. On repasse au standard avec des questions sur les primaires démocrates aux États-Unis. Alors vous me direz l'élection présidentielle c'est dans un peu plus d'un an mais les démocrates se mobilisent déjà. Il y a déjà eu deux débats organisés à la télévision, ce qui suscite des questions. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour Yoann et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Merci de nous appeler, nous vous écoutons.
J'aimerais dire ceci. Dans la course à l'investiture démocrate, 12 débats sont prévus pour départager les différents candidats. Quelles sont maintenant les chances de Kamala Harris vu sa prestation lors du dernier débat? Et pourquoi dit-on qu'elle symbolise les rêves américains?
Ah, Kamala Harris, un nom à retenir. C'est vrai qu'elle a crevé l'écran jeudi dernier lors d'un des débats entre candidats démocrates. Bonjour Jean-Éric Brana.
Bonjour Julien, bonjour Antoine
de Kinshasa. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 2 Panthéon Assas, spécialiste des États-Unis. Kamala Harris, sénatrice de Californie. En deux mots, rappelez-nous comment elle a réussi à s'imposer dans ce débat.
Alors, elle a réussi à s'imposer parce qu'elle l'avait très bien préparé. Quand il y a autant de monde, c'est vraiment la règle numéro un. Il faut préparer les choses et donc elle a porté l'estocade à celui qui était favori, Joe Biden, principalement parce qu'elle essaie de séduire la communauté afro-américaine et qu'elle a rappelé qu'à l'époque, dans les années 70, où a été instauré ce qu'on appelle le busing, c'est-à-dire on transportait des enfants noirs vers d'autres écoles pour faire de la société multiraciale, Joe Biden s'était opposé à cela et elle explique que sans ce système-là, elle ne serait pas où elle en est aujourd'hui et donc au contraire, il fallait l'encourager. Mais Joe Biden, on peut le dire au passage, n'était que dans l'air du temps, puisqu'à l'époque, 70% des Américains étaient opposés. Et Joe Biden, sénateur blanc à l'époque, ne faisait qu'être comme tout le monde.
Ouais. Alors justement, pourquoi dit-on qu'elle a des chances aujourd'hui, peut-être de devenir la première présidente métisse des États-Unis?
Alors, on dit en réalité qu'elle a des chances depuis qu'elle est rentrée en politique, depuis qu'elle s'est fait élire sénatrice, car elle crève l'écran, Kamala Harris. Elle coche en réalité toutes les bonnes cases. Elle est californienne, elle est noire, elle est progressiste, elle est encore jeune, 58 ans. Elle est issue de l'immigration et puis elle a des premières fois, c'est la première sénatrice indo-américaine, puisque sa mère est d'origine d'Inde. C'est la deuxième afro-américaine à être élue sénatrice au Congrès. Ça pourrait être effectivement la première présidente ou la première vice-présidente, puisque c'est plutôt le rôle dans lequel on la voit en tant qu'observateur depuis le départ. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle coche les premières. Elle avait été aussi la première flic de Californie. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement courageux, ambitieux et qui a de fortes capacités, c'est vrai.
Ouais. Alors elle coche effectivement les cases du rêve américain, il n'y a pas de doute. En même temps, peut-elle rassembler le camp démocrate? On le sait divisé entre les centristes, la gauche, et c'est probablement le candidat qui parviendra à rassembler les démocrates qui sera certainement investi.
Alors, je ne crois pas tant que ce soit le problème de rassembler le camp démocrate, car il y a eu un lieu commun dans ce camp-là aujourd'hui, c'est qu'il faut battre Donald Trump. Et en réalité, quel que soit le candidat, ils vont tous se réunir autour de lui. La question sera de savoir si les indépendants, voire les républicains les plus modérés, pourront ensuite rejoindre ce ticket démocrate pour pouvoir finalement porter l'estocade de Donald Trump et le battre à la fin. Et là, la question de savoir si cette femme très progressiste, noire américaine, femme, pourrait effectivement séduire ces indépendants et les républicains modérés, comme je viens de le dire. Là, la question, c'est vrai, elle est beaucoup plus difficile et on en est encore loin, oui, je pense. Mais ceci dit, une campagne peut absolument tout changer. Souvenez-vous, Barack Obama n'était pas le favori au départ en 2008 et il avait même surpris les blancs américains qui ne pensaient pas qu'un jour ils voteraient pour lui. Et pourtant, sa campagne avait enflammé l'Amérique et finalement, il avait terminé triomphalement en apportant cette note d'espoir à l'Amérique et a eu le destin que l'on connaît.
Évidemment. En tout cas, le candidat démocrate ne sera connu qu'en juillet 2020, dans un an exactement. Merci Jean-Éric Brana d'avoir pris quelques minutes pour répondre à Antoine de Kinshasa. Juliette Morillo est avec nous ce matin. Elle est spécialiste des deux Corées. Elle a publié aux éditions Robert Laffont, La Corée du Nord en 100 questions et Le Monde de Kim Jong-un. Bonjour Juliette Morillo.
Bonjour Juan.
On s'est permis de vous contacter ce matin car nous avons reçu des questions après cette rencontre historique entre le président américain et le numéro un nord-coréen. Tim nous appelle de la Corogne, dans le nord-ouest de l'Espagne. Bonjour Tim.
Bonjour Juan.
Nous vous écoutons.
Merci. Je disais, une rencontre historique a eu lieu entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le président américain s'est rendu dans la zone démilitarisée entre les deux Corées avant de faire quelques pas en Corée du Nord. Après l'échec du dernier sommet, cette rencontre symbolique peut-elle conduire à une reprise de négociations alors que les deux camps sont restés sur leur position?
Juliette Morillo, c'est une bonne question. C'est vrai que c'était la première fois qu'un président américain foulait le sol nord-coréen. C'est un coup de communication ou une avancée pour la paix?
Alors, c'est les deux, bien évidemment. C'est un gros coup de communication, mais pour répondre précisément à la question de Tim, c'est vrai que les négociations et le dialogue entre Washington et Pyongyang semblaient avoir été un petit peu refroidis depuis l'échec du sommet de Hanoï, et il était important de renouer, il était important d'avancer. Alors oui, cela va avancer parce que le résultat de cette rencontre impromptue, c'est que, pas si impromptu que ça d'ailleurs, mais c'est que les deux pays ont choisi chacun une équipe de négociateurs agréés par l'un et par l'autre, c'est-à-dire en termes clairs, les durs, les conservateurs, Bolton, etc., sont un petit peu écartés du processus de négociation parce qu'ils avaient une attitude très dure avec la Corée du Nord, et ils devraient s'engager sur de nouvelles discussions avec, à l'horizon de ces discussions, une dénucléarisation ou plus précisément un gel des installations, un gel du programme nucléaire nord-coréen. Ce qui, en quelque sorte, reviendrait à dire que, de facto, la Corée du Nord est acceptée comme une puissance nucléaire, puisqu'un gel voudrait dire on ne touche pas momentanément aux installations nucléaires. La Corée du Nord promet de ne plus faire progresser son programme et à terme de dénucléariser. Mais c'est une sorte de pirouette assez habile qui laisse de la place à la Corée du Nord, permettrait peut-être de lever les sanctions et sauve la face finalement plus ou moins du président américain, mais ça ne plaît pas beaucoup, bien évidemment, aux États-Unis, aux démocrates.
Oui, aux démocrates.
C'est un petit peu ce qui est à l'horizon de ces négociations et ce dont on parle beaucoup aujourd'hui.
Oui, les démocrates qui dénoncent une mauvaise pièce de théâtre au regard de ce qui s'est passé dimanche le long de cette ligne de dans cette zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. Certains candidats démocrates on dit qu'on ne prend pas de photos avec des dictateurs. C'est en substance ce qui ressort de certains commentaires. Merci beaucoup Juliette Morillo. Bonne journée à vous, Tim. Merci d'écouter RFI à la Cologne, dans le nord-ouest de l'Espagne. À suivre le journal et on revient tout de suite après. On parlera football, la CAN évidemment.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.